Et voici le journal par Marc Potvin. Bonjour Marc.
Bonjour à tous. Le Conseil d'État a tranché, il valide en grande partie les arrêtés des préfets sur la généralisation du port du masque. Mais il y a du changement à prévoir, nous y revenons en détail dans un instant.
L'épidémie de coronavirus n'en finit plus de gréver notre économie. Le gouvernement redoute une importante vague de plans sociaux ces prochains mois. Témoignage à suivre d'un chef d'entreprise qui affronte tant bien que mal la crise du Covid-19.
Marine Le Pen de retour sur une estrade hier, rentrée politique pour la présidente du Rassemblement National qui poursuit son offensive en vue de la prochaine présidentielle, quitte à négliger les régionales, prochain grand scrutin sur la route de 2022.
Et puis une immersion dans l'Amérique d'extrême droite dans ce journal. Notre correspondant aux États-Unis a pu rencontrer des militants qui s'apprêtent à manifester aujourd'hui à Portland. Portland, où des manifestations contre les discriminations raciales et les violences policières ont lieu depuis maintenant 3 mois.
Après ce journal, Guillaume, la question du jour.
Eh bien, quelle vision de la République porte Emmanuel Macron? Je poserai la question à Christophe Prochasson, il est historien et président de l'école des hautes études en sciences sociales.
Il y aura fallu de longues heures de discussion. Le Conseil d'État a entériné en grande partie hier les arrêtés préfectoraux sur la généralisation du port du masque. La haute juridiction administrative devait se prononcer après les récentes décisions des tribunaux de Strasbourg et de Lyon. Jean-Philippe Degnaud, ils ont demandé aux préfets du Bas-Rhin et du Rhône d'assouplir leurs arrêtés.
La décision du Conseil d'État repose sur plusieurs principes. Tout d'abord, oui, la circulation du virus s'accélère, particulièrement dans le Bas-Rhin et le Rhône, et l'obligation de porter le masque est donc justifiée. Deuxièmement, pour qu'une telle décision soit facilement appliquée, elle doit englober des zones larges pour que les personnes ne soient pas incitées à enlever et remettre leur masque à plusieurs reprises lors d'une même sortie. Pas question non plus de limiter la mesure à certains horaires, ce qui nuirait à la lisibilité du dispositif. Mais, souligne la juge des référés, cette obligation doit quand même être justifiée par une forte densité de population. Pas d'obstacle donc à imposer le masque dans l'ensemble du périmètre des communes de Lyon et Villeurbanne. En revanche, dans le cas du Bas-Rhin, où la préfète avait signé cet arrêté pour les 13 villes qui comptent plus de 10 000 habitants, il faudra faire du cas par cas et prévoir, pour les communes les moins denses, de n'imposer le masque que dans les centres-villes parce qu'ils sont faciles à délimiter. Les nouveaux arrêtés devront ainsi être modifiés dans la journée.
Jean-Philippe Degnaud. La France compte désormais 7 nouveaux départements en zone rouge de circulation active du coronavirus. Le Nord, le Bas-Rhin, la Seine-Maritime, la Côte d'Or, la Haute-Corse, la Corse du Sud et l'île de la Réunion. Un classement qui permet l'application de mesures renforcées dans les 2 départements corse, par exemple plus de bars passé minuit. En tout, 28 départements sont placés en zone rouge. Le gouvernement s'attend à une importante vague de plans sociaux dans les mois qui viennent, plus importante encore que celle depuis le mois de mars. 326 plans de sauvegarde de l'emploi recensés sur cette période. Parmi les mesures qui permettent de limiter la casse sociale, le recours à l'activité partielle de longue durée. Il permet, grâce à un accord avec les syndicats, de réduire le temps de travail sans que le salarié y perde trop en salaire. Sauvegarder l'emploi de ces 26 salariés, c'est l'objectif du directeur général de Minitech France, qui fabrique des barres en aluminium à Sarreguemines en Moselle, Patrick Gé, qui témoigne de ces difficultés.
On a à peu près 25% d'activité en moins. L'automobile, c'est quasiment à l'arrêt. En plus, dans l'est de la France, le site qui était présumé produire la future Mercedes à Hambach est en vente. Donc là aussi, c'était un peu des mauvaises nouvelles. Mais fort heureusement, il y a d'autres industriels qui fonctionnent encore. Et puis, on a espoir. Chef d'entreprise doit toujours être positif et on espère que ça va redémarrer dans d'autres secteurs.
En tout cas, vos 26 salariés, vous les gardez ?
C'est un objectif. C'est un objectif. C'est vraiment la priorité parce que on était quand même tendu avant le Covid. On avait du mal à trouver du personnel qualifié. Moi, je les ai trouvés. On a recruté. Je recrute encore une jeune apprentie, élève ingénieur, pour nous accompagner. Et donc, si nous, on jette l'éponge, ça pourra pas fonctionner. Et en plus, avec ce qu'on entend, le plan de relance de l'économie française, je pense qu'il y aura peut-être des nouvelles idées, des nouveaux projets qu'on ne connaît pas encore, qui vont sortir. La France est un pays qui a quand même toujours été novateur. Et je pense qu'on sera à même de sortir de cette crise.
Patrick Jec, directeur général de Minitech France, avec Anne-Laure Jumet. Une nouvelle cible pour Marine Le Pen, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. C'est Taubira en pire, lance la présidente du Rassemblement National. L'intéressé lui répond sur les réseaux sociaux qu'elle, c'est son père en pire. Passe d'armes en marge de la rentrée politique du RN. Hier à Fréjus, dans le Var, dans son discours, la candidate du parti à la prochaine présidentielle a longuement insisté sur le thème de la sécurité. Également sur les insuffisances, selon elle, du plan de relance du gouvernement. En revanche, Antoine Maret, elle a très peu évoqué les prochaines régionales.
La présidentielle, c'est dans un an et demi, et le RN a déjà une candidate et un slogan. Français, réveillez-vous. Des régionales, en revanche, qui auront lieu en mars prochain, il en a été très peu question pendant ce week-end de rentrée. Les têtes de liste ne sont pas encore connues. Et cette fois-ci, le RN devra se passer des célébrités de 2015, Marine Le Pen, Marion Maréchal et Florian Philippot. Mais le député Sébastien Chenu relativise cette absence de tête d'affiche.
Faire de la politique, c'est pas devenir une star de la télé-réalité. Et l'idée n'est pas d'avoir des candidats qui aient une notoriété forcément impressionnante, c'est d'avoir des candidats qui défendent des idées, qui soient implantés territorialement, qui connaissent leur terrain et qui soient crédibles pour gérer la région le lendemain. Qui connaissait le nom des présidents de région Franche-Comté ou de la région Centre, et pourtant ils ont bien battu tous les autres alors qu'ils avaient une très faible notoriété. Le vote pour les régionales, c'est un vote politique. Et on imagine bien que les équations personnelles des candidats sortants ne leur suffiront pas à incarner, même si les Républicains s'allient à En Marche, incarner un renouvellement politique nécessaire.
En 2015, Marine Le Pen espérait gagner jusqu'à 5 régions. Le FN n'en avait finalement remporté aucune, malgré un très bon score au premier tour. La présidente du RN semble avoir retenu la leçon et n'affiche désormais aucun pronostic. Seul le vice-président Jordan Bardella se risque à fixer l'objectif beaucoup plus modeste de 3 régions.
Antoine Maret du service politique de France Culture.
7h07 sur France Culture, la suite du journal de Marc Potvin. Dans les matins, les partisans de Donald Trump et des milices d'extrême droite prévoient de se mobiliser à nouveau aujourd'hui à Portland.
Cette ville de l'état de l'Oregon dans le nord-ouest des États-Unis, elle est le théâtre depuis près de 3 mois de manifestations contre les discriminations raciales et les violences policières. Avant ce nouveau défilé, ces miliciens armés et ultra-conservateurs se sont retrouvés ce week-end dans l'état voisin de Washington. L'envoyé spécial de France Culture, Grégory Phillips, a pu les rencontrer.
Le rassemblement a été organisé à la mémoire d'Aaron J. Danielson, tué 8 jours plus tôt dans les rues de Portland par un homme se présentant comme antifasciste. Danielson lui appartenait à une milice d'extrême droite baptisée les Patriot Prayers, et les militants de ce groupuscule armé sont présents dans le jardin public. Chester Dolls est venu d'Atlanta.
J'arrive de Géorgie, je suis le fondateur du mouvement des Américains Patriotes. Notre groupe défend la Constitution, se bat contre le socialisme. Moi, je pense que Portland est devenu l'épicentre de la Seconde Guerre civile. Alors, appelez nos adversaires socialistes, progressistes, comme vous voulez, mais ce sont des communistes qui agitent leur drapeau rouge. Le président a dit que c'était des terroristes de l'intérieur dont nous sommes là pour sauver l'Amérique. On ne veut pas devenir un cloaque communiste dans lequel personne ne pourra vivre librement.
Dans la foule des drapeaux américains, beaucoup de casquettes « Make America Great Again » et puis aussi des hommes en tenue paramilitaire. Le 3 novembre, tous ou presque disent qu'ils voteront Donald Trump, que le candidat républicain l'emportera. Mais ils assurent aussi que le camp d'en face tentera de lui voler cette victoire. Ces groupuscules d'extrême droite sont minoritaires, mais armés et mobilisés, et promettent le chaos après la présidentielle.
Grégory Phillips, correspondant de France Culture aux États-Unis. Le vent de la contestation ne faiblit pas en Biélorussie. Près d'un mois après la réélection contestée d'Alexandre Loukachenko au poste de président, plus de 100 000 personnes ont marché hier dans la capitale Minsk. Mobilisation plus importante que lors des précédents dimanches de manifestation, a constaté l'agence France-Presse. D'autres défilés ont eu lieu ailleurs dans le pays. Environ 250 personnes ont été arrêtées selon une ONG. Les chefs d'État de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest réunis aujourd'hui à Niamey au Niger. L'ordre du jour est essentiellement consacré à la situation au Mali. Ce week-end, la junte qui a renversé Ibrahim Boubacar Keïta l'a autorisé à quitter le pays pour se soigner. L'ex-président ne pourra pas rester plus de 3 mois à l'étranger. Près de 4 semaines après le coup d'État militaire, Valérie Crova a pu rencontrer l'imam Diko, l'une des figures centrales de la vie politique malienne.
Mahmoud Diko est un homme discret qui n'aime pas parler de lui. C'est l'impasse dans laquelle se trouvait son pays qui a fait qu'il est devenu, presque malgré lui, l'une des figures de la contestation contre l'ex-président Ibeka.
C'est contre un système qu'il a incarné. Effectivement, je me suis opposé à cela. Vraiment, j'exprime certainement ce que beaucoup de Maliens pensent. On n'a pas besoin de chercher beaucoup pour savoir que vraiment ce qui se passait à l'époque était catastrophique. Comme gouvernance, la corruption, c'est presque endémique.
L'imam Diko a d'abord remercié les militaires quand ils ont pris le pouvoir le 18 août dernier, puis leur a demandé de respecter leurs premiers engagements, à savoir organiser une transition politique dans un délai raisonnable.
Je ne l'ai pas salué pour qu'il vienne s'accaparer du pouvoir et puis nous imposer un pouvoir militaire, pas du tout. Et je pense que c'est des enfants qui comprennent les enjeux. Maintenant, ils doivent se mettre avec le peuple pour trouver une voie meilleure et qu'on aille vers les élections.
L'imam Diko est catégorique. La transition ne peut pas être conduite par un militaire.
J'opte pour un civil. Parce que je ne souhaite pas du tout qu'aujourd'hui, on se mette dans une situation où on va être en contradiction avec la communauté internationale.
Quant à la durée de la transition, elle ne doit pas excéder quelques mois, dit-il.
La CEDEAO a dit 12 mois. Peut-être il faut aller 18 mois au moins. 18 mois, je crois, c'est raisonnable.
Avant de conclure notre entretien, l'imam Diko a tenu à adresser ses condoléances aux familles des deux soldats français morts ce week-end dans le nord du Mali.
Valérie Crova, le Premier ministre britannique veut un accord avec l'Union européenne sur le Brexit avant le 15 novembre. Si nous n'arrivons pas à nous accorder d'ici là, je ne vois pas d'accord de libre-échange entre nous, prévient Boris Johnson. Il ajoute que les négociations qui reprennent demain entrent dans leur phase finale. Nous y revenons dans moins d'une demi-heure dans la revue de presse internationale. Le temps de ce lundi dans l'Hexagone s'est ensoleillé presque partout, sauf sur le sud-est où tomberont des averses. Au nord, comptez entre 20 et 24 degrés, 24 degrés minimum dans la moitié sud, jusqu'à 30 degrés en Corse.